Bonjour, nous sommes partis en vacances, mais pour vous accompagner, nous vous avons concocté des rediffusions. Bonne émission.
RFI. Ça, c'est le Los Mineros. C'est l'ancien bar des chercheurs d'or, le bordel et la prison.
C'est pas du vent.
Non, il n'y a pas de stress.
C'est pas du vent.
Bien, si.
Bueno, aquí lo más importante es la gente.
Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent.
Je reviens, maman.
Je reviens,
vas-y, reviens vers moi.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour, 1,5 milliard de personnes voyagent pour découvrir un nouveau pays chaque année. Un chiffre qui augmente de 5% par an selon l'Organisation mondiale du tourisme. L'Europe attire plus de la moitié des touristes, mais l'Asie et l'Afrique sont les destinations à la mode, avec une croissance annuelle de 7%. Une manne financière pour les pays d'accueil, mais à quel prix? Pour diminuer l'impact environnemental des infrastructures qui peuvent défigurer les paysages et permettre aux populations locales de bénéficier des retombées économiques, la solution pourrait être l'écotourisme. Mais quelle réalité se cache derrière ce terme qui attire de plus en plus de monde? Nous allons en parler dans un instant avec nos invités et nous vous emmènerons dans le pays qui est présenté comme le modèle mondial en matière d'écotourisme, le Costa Rica. Bonjour Clémentine Concas-Russo.
Bonjour.
Vous êtes administratrice de l'Association des acteurs du tourisme durable qui réunit les professionnels engagés et vous avez réalisé un tour du monde du tourisme responsable pendant 7 mois, 3 continents, 9 destinations. Avec quelle ambition ?
Avec l'ambition de tordre le cou aux idées reçues sur le tourisme durable, de montrer que c'est pas ennuyeux, c'est pas contraignant, c'est pas forcément que routes, c'est plein de choses. Et l'objectif était de montrer que chacun, à son échelle, on peut avoir des vacances plus vertueuses et pratiquer un tourisme durable.
On va essayer de détailler tout cela. Et alors, nous sommes en ligne aussi avec Anne-Lyne Lobez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Marseille, dans le sud de la France. Alors, vous avez suivi une formation de guide naturaliste en Afrique du Sud, puis vous avez travaillé en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, pour développer justement des projets d'écotourisme, parce que le potentiel est fort sur le continent.
Oui, 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 tout à fait, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi une nature et c'est aussi un continent où on a un nombre incroyable d'animaux sauvages, donc ça s'y prête complètement.
Alors avant d'échanger davantage, je vous propose de nous rendre en Amérique centrale, plus précisément entre le Panama et le Nicaragua, au Costa Rica donc, bordé à l'est par la mer des Caraïbes et à l'ouest par le Pacifique. Ce pays d'Amérique centrale a compris très tôt l'importance de préserver son capital naturel. Un quart du pays est classé en zone protégée et la forêt restaurée en recouvre désormais plus de la moitié. Résultat, son territoire de la taille du Togo abrite 6% de la biodiversité mondiale. Nous vous emmenons dans le sud-ouest, sur la péninsule d'Ossa, occupée à 80% par le parc national du Corcovado. Un endroit magnifique que je vous invite à découvrir dans le reportage que nous avons diffusé hier et que vous trouverez en podcast sur vos applications favorites. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer qu'avec beaucoup de volonté et une bonne organisation, le tourisme peut réellement profiter aux populations locales.
Je m'appelle Carlos Villalobos de la Laguna Acuachaco et je suis ici pour vous servir.
Waouh, nous servir peut-être pas, mais répondre à nos questions. Alors, vous êtes le président de la coopérative Copéturique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de personnes travaillent avec vous dans cette coopérative touristique ?
La coopérative
regroupe 23 associés, mais on peut dire qu'il y a environ 50 personnes qui y travaillent.
Alors quel est l'objectif de cette coopérative ?
L'objectif de cette coopérative, c'est de nous organiser à l'échelle d'un groupe.
Et il y a plusieurs entreprises, il y a 11 entreprises dans cette coopérative. Ce sont essentiellement des gens qui font du tourisme en plus de leur activité principale, comme vous.
Oui, il y a 11 entreprises familiales, mais seulement 2 personnes vivent uniquement de l'agrotourisme.
Alors quel type de tourisme proposez-vous au sein de cette coopérative? Qu'est-ce qu'on peut faire si on va sur votre site www.osaruraltours.com?
Les activités sont variées. Par exemple, je pourrais vous proposer un programme pour passer une semaine entière ici.
Et on ferait quoi alors?
Je pourrais vous conseiller des activités écologiques, comme de la production agricole ou des cours de gastronomie.
Vous organisez aussi des visites pour découvrir l'environnement du Costa Rica?
Notre coopérative est complètement dédiée à la protection de l'environnement. Rien que pour ma famille, nous protégeons 2000 hectares de forêt.
Mais si je viens vous voir, qu'est-ce que je peux faire comme activité, par exemple? Vous proposez des tours aux touristes?
Nous proposons des balades sur des kilomètres de sentiers, des découvertes culturelles, des randonnées dans le parc national du Corcovado ou de la plongée à l'Isla del Caño, deux hauts lieux touristiques de la zone. Nous pouvons aussi vous emmener observer les insectes, visiter les plantations de palmiers, les mangroves, voir des cascades, faire des tours à cheval, voir des sites archéologiques ou des anciennes mines d'or. Nous avons énormément d'activités. Vous pouvez aussi faire un tour agricole et gastronomique, c'est-à-dire on va récolter les fruits et les légumes ensemble et on cuisine ici.
Alors vous, à la base, vous êtes un agriculteur, un paysan. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser au tourisme?
Eso lo comencé en el año 1997.
J'ai commencé en 1997, quand j'ai été invité par le ministère de l'Agriculture à suivre une formation sur l'agrotourisme. C'était un atelier d'une semaine à San José, la capitale, durant lequel nous avons découvert la législation, l'environnement, le côté administratif.
Et
quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à tout le monde que nous devions nous mettre au tourisme, que nous ne profitions pas assez des ressources naturelles qui nous entouraient.
Vous ne vous rendiez pas compte, en fait, de ce potentiel touristique ?
Maintenant, nous nous en rendons compte. Nous avons les forêts, les chevaux, les cascades, les oiseaux, les mammifères, les plages, les mangroves et le parc national du Corcovado qui est juste à côté.
Mais avant, vous n'aviez pas réalisé ce potentiel. Vous ne pensiez pas que vous pouviez compléter vos revenus avec cette activité?
Sincèrement, non. Je ne me rendais pas compte de ce potentiel, car nous avons toujours vécu ici. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris.
Et comment votre famille a réagi quand vous leur avez dit qu'il fallait développer le tourisme ?
Quand je suis revenu et que j'ai expliqué à ma famille que nous ne profitions pas assez des ressources qui nous entouraient, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont pris pour un fou.
Et 23 ans plus tard, est-ce qu'ils disent toujours la même chose ?
Non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis au tourisme.
Alors, on va peut-être aller faire un petit tour, justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer aujourd'hui?
Je vous propose d'aller faire un tour sur le lac pour que vous puissiez profiter de la beauté du paysage et de la tranquillité de l'endroit.
Bien, on y va. Vamos.
Ok.
Nous quittons la terrasse de Carlos. Sa sœur nous fait visiter les 3 chambres qu'ils ont aménagées pour accueillir les touristes. Le confort est simple, mais la décoration est soignée. Puis direction la Laguna Chocuaco à travers les champs. Carlos, pour aller jusqu'au lac faire notre petit tour en bateau, on marche à travers les champs. Et là, vous nous disiez, c'est un terrain qui appartient à votre frère et c'est un terrain où on pratique l'agroécologie.
C'est un champ agroécologique. Par exemple, vous pouvez voir que nous avons laissé beaucoup d'arbres pour avoir des fruits, bien sûr, mais aussi pour que les animaux bénéficient de l'ombre.
Il y a des haies qui entourent tout ce champ, ce sont des haies plantées avec des arbres vivants. C'est vous qui avez fait ce travail ?
Toutes les cercas de nous sont cercas vivas.
Oui, ce sont des haies vives que j'ai plantées pour que les animaux aient de l'ombre, pour qu'ils mangent les feuilles. Et en plus, les arbres captent le dioxyde de carbone.
C'est important pour vous de capter du dioxyde de carbone ?
C'est important pour tout le monde, non ?
Carlos, là, nous sommes dans une barque en train de regarder au coucher du soleil les oiseaux, notamment les ibis qui s'accrochent aux arbres. On guette les caïmans qui viennent respirer à la surface. Il y a une quiétude incroyable ici. C'est ça le tourisme que vous offrez ?
Oui, ici nous proposons aux touristes d'observer les oiseaux, de pêcher. Mais avant tout, nous leur offrons de profiter de la tranquillité du lac.
Et nous sommes venus à la rame. Vous n'utilisez pas de moteur ?
Oui, nous avons décidé de ne pas utiliser de moteur pour préserver l'environnement et ne pas déranger les espèces qui vivent sur le lac. Et nous ne permettons à personne de venir avec un moteur. Si cela arrive, nous dénonçons tout de suite la personne au ministère de l'Environnement.
Ah oui, ça rigole pas. Et donc, qui sont les touristes qui viennent ici ?
Il y a des touristes du monde entier, des Français, des Espagnols, des Allemands, des Canadiens, des gringos. Ceux qui viennent le moins, ce sont les Costariciens.
Et vous me disiez, avant qu'on enregistre cette interview, que la plupart des touristes qui viennent ici sont des étudiants, sont des volontaires. Ce ne sont pas tellement le tourisme de masse, comme on dit. Comment est-ce que vous pourriez faire pour capter ce tourisme-là ?
Pour attirer plus de touristes ici, il faudrait que nous soyons plus présents sur Internet. Qu'une personne soit dédiée au marketing et à la gestion des réservations.
Est-ce que vous avez l'impression d'être en concurrence face aux tour opérateurs qui ont plutôt tendance à emmener les touristes dans les grands hôtels ?
Non, peut-être que ce n'est pas injuste. Ce qui se passe, c'est qu'ils...
Nous n'avons pas le même pouvoir économique. La plupart de ces tours opérateurs ont des bureaux partout dans le monde, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis ou en France. Nous n'avons que notre groupement, Ossa Rural Tour. Mais nous proposons un tourisme différent. Beaucoup ne proposent que la plage et le soleil. Nous, on a une offre autour de l'écologie. C'est un tourisme rural communautaire.
Muchas gracias.
A la orden. Mucho gusto.
Et c'est sous un ciel rosé que nous regagnons doucement le rivage. Au rythme des rames, le silence n'a pas sa place. Le crépuscule orchestre le chant des oiseaux qui se posent sur les branches devenues noires. Un caïman respire à la surface. Les lucioles font leur apparition et nous conduisent vers la terre ferme. Le temps s'étire indéfiniment. Nous avons envie de suspendre cet instant. Le lendemain, à une cinquantaine de kilomètres plus à l'est, toujours sur la péninsule d'Ossa, nous avons rendez-vous avec Esther Coronado Silva. Elle est la secrétaire de l'association Corcovado El Tigre que les habitants du village Dos Braços ont créé. Nous la retrouvons dans la magnifique maison communautaire de la coopérative, tout en bambou. Hola.
Buenos días.
Et donc, on est venu donc pour vous rencontrer, voir ce que vous faites comme écotourisme. Et donc, on peut peut-être s'installer quelque part et discuter un petit peu. Ah, vous parlez un peu français.
Le français se parece mucho al catalán.
Alors, ça serait dommage de faire cette interview ici, dans un bureau. Je crois que vous avez ouvert, il n'y a pas très longtemps, une entrée vers le parc du Corcovado. On peut peut-être y aller ?
Ah, sí, claro, abrimos la entrada en 2015 y ya tenemos...
Oui, on a ouvert une entrée du parc depuis 2015 et depuis 5 ans que c'est ouvert, on a de plus en plus de gens qui viennent nous visiter, donc on peut prendre la voiture et aller voir directement ce qui se passe là-bas.
Vamos !
Vamos !
Nous Nous sommes devant la fameuse entrée du fameux parc du Corcovado qui a été ouverte ici en 2015. C'était important pour vous d'ouvrir cette entrée ?
Ah, sí, era importantísimo para la comunidad.
Oui, c'était très important pour la communauté puisqu'on a pu voir qu'il y avait de plus en plus de touristes qui venaient ici, ce qui est bénéfique pour la communauté.
Esther, on peut marcher combien de temps sur ce sentier ?
Alrededor de 6 horas.
Autour de 6 heures, après ça dépend de la condition physique de chacun puisqu'on est dans un sentier montagneux, donc il y a des parties où ça monte plutôt pas mal.
Quel est l'objectif ? On va où là quand on prend ce sentier ?
Vamos adentrándonos primero por.
Alors d'abord on va passer par quelques fermes de la communauté avant d'arriver vraiment dans le parc national Corcovado. Ce sentier c'est une boucle, donc en fait on ressort dans la communauté de Los Brazos.
Alors justement, cette communauté, parlez-nous de ce fonctionnement. Toutes les personnes qui vivent ici à la saison sèche vivent du tourisme. Mais un tourisme communautaire, comment ça fonctionne ?
Le tourisme communautaire, lo gestionamos a través de l'association.
Alors le tourisme communautaire, c'est un tourisme qui fonctionne à travers notre association. Donc on la gère à travers une association à but non lucratif, on s'occupe des réservations. On assigne les guides pour les différents tours en fonction des langues qu'ils parlent bien évidemment. On a 25 guides qui travaillent dans la communauté.
Donc vous proposez des tours dans le parc du Corcovado, qu'est-ce que vous proposez d'autre comme activité ?
Autre activité serait le tour culturel de l'or.
On a également le tour culturel autour de l'or, puisqu'ici on est dans une zone où il y a énormément d'or, mais il est interdit de l'extraire. Alors on propose simplement une petite démonstration pour comprendre comment on extrait l'or.
L'or ici, c'est le tourisme.
Exactement, on a besoin du tourisme pour avancer comme une communauté engagée dans le tourisme durable.
Combien de familles sont investies dans l'association touristique ?
Somos 52 personas en la asociación.
52 personnes font partie de l'association. On peut dire que c'est environ 15 familles qui en font partie. Mais les bénéfices du tourisme ne vont pas simplement aux membres de l'association, sinon à toute la communauté.
Et donc, ça veut dire que toutes les activités de l'association, que ce soit loger les touristes, les accompagner pour faire des tours, aller observer la biodiversité, ça bénéficie réellement aux populations locales. C'est ça la différence par rapport au tourisme plus de masse que vous exerciez avant d'ailleurs.
Sí, correcto, muy diferente. Porque se ve el que.
Oui, c'est complètement différent et on voit que ici l'argent reste dans la communauté, ce qui fait que les gens peuvent vraiment se développer, avancer ici. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour chercher du travail.
Est-ce que la population avait conscience de l'incroyable potentiel touristique qu'il y a ici avant la création de l'association ?
Non, para nada. La población no tenía conciencia en absoluto de la riqueza que tenía la riqueza natural del lugar.
Non, pas du tout. La population ici n'avait aucune idée de la richesse qu'ils avaient avec leurs ressources naturelles.
Donc ils exploitaient ces ressources pour eux-mêmes ?
Sí, correcto. Tenían, aparte de la minería, había mucha cacería.
Oui, c'est exactement ça. À part l'or, l'extraction d'or, ils faisaient également de la chasse.
Et si, también la tala de árboles.
Oui, également ils coupaient du bois. Et toutes ces activités ont été complètement réduites grâce aux activités de l'association.
Alors, il y a eu l'interdiction de la chasse par le gouvernement en 2005, mais il a fallu la faire appliquer. Et c'est justement le travail de sensibilisation de l'association qui a permis petit à petit de changer les mentalités.
Exactamente, sí, con solo la prohibición, la cacería aquí seguía igual porque.
Exactement, ce n'a pas seulement été l'interdiction nationale qui a fait que ça a pu s'arrêter, puisque la chasse continuait malgré tout. Étant donné qu'on est loin de la capitale, c'était très difficile de contrôler, et c'est grâce à des ateliers, à des discussions que l'on a pu en venir à bout.
En 15 ans, les mentalités ont complètement changé, et aujourd'hui, les gens ont conscience de ce capital naturel.
Totalmente. Hace 10, 15 años, esto era totalement autre chose. Il y a comme 300 horaires.
Depuis 15 ans, ça a totalement changé. Quand je suis arrivée il y a 15 ans, il y avait environ 300 mineurs. La population était très pauvre et l'argent qu'ils avaient, ils le dépensaient en alcool et les familles devaient tenir le coup. Aujourd'hui, il y a environ 20 mineurs.
Y toda la población está enfocada hacia el turismo sostenible.
Et aujourd'hui, la plupart de la population est dédiée au tourisme durable. Aujourd'hui, c'est un village très calme. On peut se garer tranquillement dans les rues sans aucun problème.
Il n'y a plus d'alcool.
El alcohol siempre está.
L'alcool, il y en a toujours, mais bon, c'est pour des fêtes occasionnelles. Ce n'est pas quotidien.
Muchas gracias a ustedes por la visita.
Avant de quitter Esther, nous lui demandons s'il serait possible d'aller visiter un hébergement. Elle nous répond avec enthousiasme que nous pouvons aller chez Suzanne. En plus, elle est française. Nous arrivons à Los Mineros, un endroit improbable où les chercheurs d'or venaient passer leur soirée arrosée. Tout est là, le bar, le bordel et la prison. Suzanne en a fait sa maison d'hôte. Elle nous accueille avec une solide poignée de main et nous offre un verre, l'occasion de discuter un peu.
Je m'appelle Suzanne et ça c'est le Los Mineros, c'est l'ancien bar des chercheurs d'or, le bordel et la prison. Et maintenant c'est un petit hôtel.
Petit hôtel que vous avez racheté quand ?
J'ai racheté ça en 2001 et j'ai un peu tout reconstruit, j'ai rajouté des petites cabinas et maintenant je fais restaurant et puis hôtel.
Ah, donc on peut dormir ici même dans la chambre de l'ancien bordel des mineurs d'or ?
Voilà, maintenant vous pouvez dormir dans le bordel et vous baigner dans la prison. Et d'ailleurs c'est marrant parce que l'autre jour il y avait une femme qui s'est baignée et la fermeture s'est fermée de l'extérieur et elle restait enfermée dans la prison. Et son copain, ben, il a dormi, il n'a rien entendu. Et c'est mon mari qui l'a entendu et qui l'a sauvée.
Donc elle est restée emprisonnée malgré elle.
Elle est restée quand même, donc elle a dû sentir ça un peu.
Et comment est-ce que vous êtes arrivée ici, vous ?
Moi, je cherchais des endroits où il n'y avait pas de tourisme. Donc, moi, je suis arrivée il y a 25 ans. Alors, c'était vraiment encore la mentalité des chercheurs. C'était encore un village chercheur d'or. Il y avait plus de 10 000 chercheurs d'or. Et tout le monde, c'était avec les bottes, le machete et son flingue. Beaucoup de chevaux. Alors, tout se transportait en cheval. C'était génial. C'était un autre monde.
Mais comment on arrive seule, femme, il y a 25 ans, dans une ville où il y a 10 000 chercheurs d'or ?
Moi, je n'ai jamais eu peur de rien. Donc, et moi, justement, ça me plaisait. Et puis, au départ, il faut montrer sa force et ne pas se laisser faire. Et il y avait un super respect tout de suite, dès le départ. Et je n'ai jamais eu de problème. Il y a beaucoup de filles qui viennent et qui sont « Ah oui, oh non !» Alors là, ça ne marche pas. Hein. En général, c'est quand même des gros pots de colle. Donc, ça, quand même, c'est des latinos. Donc, il faut tout de suite mettre le haut là.
Il faut être clair dès le départ.
Voilà.
Donc vous n'avez pas eu de problème, vous ?
Non, jamais de problème. Non, non, et puis moi, là, d'abord, j'habitais carrément à l'extérieur du village, où il n'y avait pas de voisins, et j'habitais toute seule, quoi, et je n'avais jamais eu de problème.
Donc vous avez vu l'évolution en 25 ans entre le monde des chercheurs d'or et le développement de l'écotourisme. Comment ça s'est passé ?
Ben, c'est venu petit à petit, finalement, puisque moi, j'ai ouvert ici. Après, il y a une Américaine qui a ouvert un lodge de l'autre côté du rivière. Et petit à petit, il y en a d'autres gens qui sont venus, d'autres étrangers. Et il y a 2 ans, il y a l'ex-président du Costa Rica qui est venu et qui a voulu changer le village chercheur d'or en un village écotourisme. Donc il y a beaucoup d'aide qui est rentrée dans le village. Il y a 25 gens de chercheurs d'or qui ont des cours de guide. Donc maintenant, ils sont des guides certifiés. Ils ont construit une maison communautaire. Alors, c'est la première et la seule, d'ailleurs, maison communautaire en bambou du Costa Rica. Elle est magnifique. Et après, beaucoup de gens pauvres qui avaient vraiment des maisons en tôle et très simples, ils ont eu des maisons correctes. Quoi. Et petit à petit, y a de plus en plus de tourisme. Et il y a l'entrée du parc qui est venue il y a quelques années. Donc ça aussi, ça amène du tourisme.
Et du coup, les mentalités ont complètement changé ?
Complètement, non. Ça reste quand même un peu pareil. Sauf que maintenant, les gens ils sont beaucoup plus ouverts par rapport au monde extérieur. Et ça a surtout changé à partir des smartphones, parce qu'il y a eu un contact. Parce qu'ici, avant, ils étaient complètement... Il n'y avait pas trop de contact avec l'extérieur. Et ils ont changé un peu plus, sont plus ouverts. Ils travaillent plus à l'extérieur. Alors souvent les autres, il y a encore quand même 40% des gens qui cherchent de l'or ici. Donc ça c'est un peu une vie de misère parce que ceux qui travaillent dans les rivières, ben, il n'y a pas beaucoup qui sortent quand même. Et voilà.
Il y a quand même des gens qui viennent toujours pour l'or ici ?
Oui, oui, il y en a plein, malheureusement. Et ils travaillent dans le parc, c'est complètement interdit. Donc c'est un peu la guerre entre les chercheurs d'or et les gens du parc. Mais ils n'utilisent pas de mercure, ils n'utilisent pas de machines, donc ça va, c'est pas aussi grave que ça pourrait l'être. Et il y en a maintenant aussi qui travaillent dans les anciennes mines, dans les tunnels. Et là, c'est sûr qu'il y a, faut trouver le filon, mais il y en a.
Donc vous diriez quoi, que les locaux, les villageois d'ici, eux, ils ont basculé vers l'écotourisme, mais qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, toujours attirés par l'or ?
Bon, il y a les deux. Et en général, quand il y a un filon qu'ils trouvent, parce que personne ne sait se taire ici, ça amène beaucoup plus de chercheurs d'or qui viennent de partout, attirés par ça, quoi. Parce que c'est quand même, quelque part, l'argent facile, même si c'est un travail très très dur.
Et du coup, ils viennent chez vous boire des coups au bar qui autrefois servait aux mineurs ?
Non, là maintenant je suis ouvert qu'au tourisme, donc je fais à manger et à boire, enfin, mais c'est surtout pour des touristes. Alors les locaux, il y a d'autres bars où ils peuvent aller boire, et... mais c'est plus ici.
Et alors vous avez beaucoup de touristes ici, ça marche bien ?
Oui, j'ai du tourisme et c'est de mieux en mieux, mais c'est un peu perdu. Donc c'est sûr, c'est pas tout le monde qui trouve et c'est quand même assez simple. Mais il faut aimer quoi, on vient ici pour la nature.
Qu'est-ce qu'on peut faire ici quand on vient chez vous ?
Alors ici, on peut se relaxer dans les hamacs déjà. Et sinon, il y a trois rivières, on peut se balader, c'est super. C'est vraiment un sentiment merveilleux parce qu'en fait, on a la jungle tout autour et on est dans l'eau, c'est super. Il y a trois rivières et les trois sont un peu différents. Après, il y a le chemin, il y a l'entrée du parc, on peut faire donc le tour dans le parc.
J'ai vu des gens partir avec des jumelles autour du cou tout à l'heure.
Oui, ça c'est beaucoup aussi, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc ça marche bien. Ici au Mineros, on a répertorié plus de 200.
200 espèces ?
200 espèces différentes, oui. Il y a beaucoup de colibris, juste à l'œil nu qu'on voit. Et ça aussi c'est des toucans, des haras, enfin pas mal d'autres ressortes.
Et vous, ça vous émerveille cette nature ? Comment vous vivez cet environnement ?
Ah non, moi c'est mon grand plaisir, j'adore. Sinon je serais pas restée. Là, ça respire, quoi. Et puis c'est rare encore de trouver ça comme ça, intouché.
Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie, merci à vous.
La route qui nous amène jusqu'à Los Mineros n'est pas damée et les habitants ne le souhaitent surtout pas pour éviter que trop de touristes viennent. Si un séjour chez Carlos ou Suzanne vous tente, vous trouverez leurs coordonnées sur la page de l'émission.
Allô, allô, ya está grabando. Yo nací en una casa, no en un hospital. Me lancé de la cuna sin imaginar esta clase de hambruna que tendría que pasar para comenzar. En la casa éramos 10, era duro el camino, así que fue el destino el que me convirtió en mendiga.
A mí nadie me diga lo que es la pobreza, porque ya me da pereza escuchar discursos.
Mejor dieran recursos para hallar la salida a esta vida miserable. Y si quieren que hable, yo les voy a decir que el que tiene más galillo traga más pinol. Y el que llora tal vez mama, el que calla no. No le dan más que las sobras, por amor de Dios. Porque dicen la palabra solidaridad, pero solo es caridad. Sin un pringue de justicia, y así fue que yo aprendí cómo manda la avaricia. Unos niños tienen todo y otros tienen nada. Y si no me da el billete que me prometió, hasta aquí le dejo el cuento y ya no grabo más.
Uecuté, Sepa Dubón, Sur RFI, bienvenidos a Costa Rica.
Nous parlons de l'écotourisme aujourd'hui avec nos invités, Clémentine Concas-Russo, administratrice de l'Association des acteurs du tourisme durable, qui réunit les professionnels engagés et qui a réalisé un tour du monde du tourisme responsable pendant 7 mois, et Adeline Lobès, en ligne avec nous depuis Marseille, dans le sud de la France, qui a suivi une formation de guide naturaliste en Afrique du Sud, puis qui a travaillé en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest pour développer des projets d'écotourisme. Alors mesdames, vous avez écouté ce reportage. stage et celui d'hier d'ailleurs aussi. Vous avez été des élèves très attentives sur le parc national du Corcovado. Alors chers auditeurs, je le rappelle, hein, si vous l'avez manqué, vous pouvez l'écouter en podcast, ce reportage, sur vos applications favorites. Comment réagissez-vous à ces reportages, Clémentine Concas-Russo?
Alors c'est avec déjà grand plaisir qu'on a retrouvé tous les sons de la jungle costaricaine. On était plus que transportés juste à l'écoute des sons. C'est de beaux exemples qui sont montrés là, d'écotourisme, donc de tourisme tourné vers la nature. Je crois que c'est un petit peu le Corcovado, le symbole du Costa Rica. Le Costa Rica, vous le disiez tout à l'heure, Anne-Cécile, c'est un quart du territoire espace naturel protégé, c'est 5% de la biodiversité. Je crois que le Costa Rica a même une responsabilité vis-à-vis de la biodiversité, une responsabilité de respect de cette nature et de s'engager sur la voie du tourisme durable. Alors, c'est pas nouveau. Le tourisme au Costa Rica, ça s'est développé dans les années 80-90 et tout de suite sur l'angle du tourisme durable et de l'écotourisme. En 95, le Costa Rica a créé son institut du tourisme. Tout de suite, la création de parcs nationaux parce qu'il y a eu finalement ce constat de la déforestation avec une agriculture très intensive. Alors, c'est curieux car parallèlement, s'est développé toute cette image et ce début du tourisme durable à l'heure où, en fait, on faisait face à un pays qui était déboisé dans les années 90. Donc, l'État a fait réellement une priorité du tourisme et donc du tourisme durable. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur le plan stratégique pour le développement touristique durable dans les années 90. Il y a eu un large appui international sur le sujet, une vraie politique de gestion des aires naturelles protégées. Donc c'est chouette quand on voit ces populations-là qui s'engagent aussi sur le tourisme communautaire. On reviendra après sur la terminologie. Mais c'est vrai qu'il y a eu un réel accompagnement, un vrai choix politique de ce pays pour mobiliser aussi les habitants sur le sujet. Et Carlos le dit à un moment dans le reportage, ils ont été conviés à des formations sur le tourisme. Donc on sent que ça peut fonctionner en effet avec ces initiatives locales et tous ces villages qui se mobilisent en communauté, mais ça ne fonctionnera avec un modèle aussi beau que le Costa Rica, que si un État prend aussi des mesures à la hauteur. Et c'est ce que le Costa Rica a fait.
Oui, ils l'ont fait bien avant tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils en récoltent largement les fruits. Adeline Lobès, comment est-ce que vous réagissez à ces reportages?
C'était effectivement passionnant. Moi, j'ai été frappée par deux choses. Notamment, je me souviens qu'effectivement, je crois que c'est Carlos qui parle d'une approche sur l'eau qui se fait donc en barque sans moteur. Donc, je me suis dit qu'effectivement, l'écotourisme et le développement de l'écotourisme allaient vraiment jusque dans les moindres détails. Et ça, c'est assez frappant parce qu'effectivement, c'est vraiment très poussé par rapport à d'autres exemples qu'on peut avoir qui en sont encore à des balbutiements. Et j'ai relevé aussi, je crois que c'est toujours Carlos qui parlait, l'une des dernières personnes qui parlait en fait de petits lodges qui n'étaient peut-être pas aussi fréquentés que les grosses et grandes structures parce qu'ils n'avaient peut-être pas le même poids par rapport au tour opérateur. Et ça, je pense que c'est de moins en moins le cas. En tout cas, on a de plus en plus de demandes vraiment de petites structures, d'éco-lodges, de lodges au niveau des voyageurs à l'heure actuelle. Et plus du tout de grosses structures ou des grosses chaînes d'hôtels dans les recherches d'une grosse majorité des voyageurs à l'heure actuelle. Mais effectivement, il faut une véritable volonté, je pense, de l'État à la base pour faire bouger les choses. Et aussi une volonté de revaloriser ce tourisme, le métier de guide, toutes ces initiatives. Effectivement, il faut vraiment les valoriser localement pour que tous ces gens sentent qu'ils ont vraiment un rôle incroyable et incroyablement important à jouer, en tout cas.
Alors, ce que je trouvais intéressant dans les témoignages aussi, c'est que c'était Carlos à nouveau qui nous disait dans le reportage que s'il n'avait pas eu cette formation organisée par le ministère de l'Agriculture, il ne se serait pas rendu compte de la richesse qui l'entoure. Et c'est vrai que vous avez dû voir ça en Afrique, Adeline Lobès, c'est-à-dire quand on est au Sénégal, en Casamance, ou quand on est au Gabon, ou quand on est au Cameroun, ces forêts, ces parcs, cette biodiversité, elle a toujours été là. Donc pourquoi tout d'un coup elle aurait de la valeur ?
Ouais, c'est vraiment ça. Ils n'ont pas du tout conscience que ça peut être aussi important que les voyageurs de plus en plus recherchent cette nature, cette quiétude, l'observation des animaux, des rencontres beaucoup plus authentiques et intéressantes que ce qu'on pouvait rechercher comme vacances il y a encore 20 ou 30 ans en arrière.
Clémentine Concas-Rousseau, dans votre tour du monde, qu'est-ce que vous avez repéré comme pratique vertueuse qui pourrait peut-être servir aux États ou aux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans ce type de tourisme?
C'est assez vaste, 7 mois de belles initiatives et de rencontres, différentes choses. Il existe, on a vu, des hôtels éco-responsables de toute gamme. On a vu des écologes de la qualité haut de gamme d'El Remanso, comme on peut avoir du tourisme chez l'habitant. Ça aussi, c'est du tourisme durable. Donc, ce n'est pas forcément que ce qui est luxueux. Ça, c'est important de le signaler parce que le Corcovado, par son inaccessibilité, j'ai parfois envie d'employer l'expression « ça se mérite le Corcovado » pour y aller.
Je vous confirme. Il y a beaucoup de routes, c'est assez loin, c'est assez inaccessible et c'est assez cher.
Et c'est assez cher du coup. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dessus une forme de tourisme élitiste? Et est-ce que ça, c'est du tourisme durable? Le tourisme durable, c'est aussi le tourisme pour tous. Donc, sur certains points, le Costa Rica avec le Corcovado, ça peut aussi un petit peu poser problème là-dessus.
Et d'ailleurs, tourisme durable, parce que moi, je parle d'écotourisme. L'écotourisme, en fait, c'est une famille du tourisme durable. Parce qu'il y a le tourisme communautaire, le slow tourisme, l'agrotourisme, le tourisme humanitaire, le tourisme solidaire. C'est difficile de s'y retrouver au milieu de tout ça.
En effet, c'est difficile de s'y retrouver en termes de sémantique là-dessus. Ce sont plein de définitions, différents types de tourisme qui ont tous un objectif qui est le même, qui est un tourisme qui permet un développement économique d'un territoire qui est respectueux des populations et de l'environnement. Alors, en effet, au Costa Rica, on va parler d'écotourisme. Quand on parle d'écotourisme, on entend un tourisme tourné vers la nature avec une visée pédagogique. On va aussi parler dans ce reportage, dans tout ce que l'on a entendu, de tourisme communautaire. On va définir le tourisme communautaire lorsque l'accueil des touristes est directement géré par les populations locales. Le tourisme culturel, c'est pas forcément cité, mais c'est aussi du tourisme durable, où l'objectif est vraiment la découverte du patrimoine. Le slow tourisme, vous en parlez, c'est une forme de réponse qui consiste à voyager lentement, à utiliser de la mobilité douce et parfois, en effet, dans un pays, avoir moins de choses, à aller moins loin, mais à aller plus en profondeur. Et ça, c'est un concept intéressant qui est en train de se développer et qui fait partie du tourisme durable. Un deuxième concept aujourd'hui qui me paraît être une vraie réponse sur le tourisme durable, c'est la micro-aventure. C'est cette importance aujourd'hui de réinventer l'imaginaire du lointain. Donc le tourisme durable, il ne se fait pas forcément au bout du monde. L'aventure, elle peut être pour certains en effet de partir faire un tour du monde, mais elle peut être déjà de changer de trottoir le matin.
Est-ce que c'est pas facile à dire ça quand on a déjà fait un tour du monde justement?
Alors justement, on revient avec une envie de redécouvrir ce qui est proche.
Mais quand on n'a jamais voyagé, on en rêve.
On en rêve, bien sûr, on en rêve, mais il y a aussi il y a plein de choses quand on voit que la France est en effet le premier pays touristique avec énormément de choses à découvrir.
Alors Adeline Lobès, cette histoire de micro-aventure, c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a eu beaucoup d'études qui montrent que finalement les Africains voyagent très peu dans leur propre pays et vont assez peu à la découverte de leur biodiversité, ne profitent pas d'infrastructures touristiques qui sont d'ailleurs souvent inexistantes, je pense notamment à l'Afrique centrale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben oui, c'est effectivement le cas un petit peu partout en Afrique, hein, que ce soit en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et même en Afrique du Sud. Alors dans des pays, je vais dire, un peu plus riches où peut-être le tourisme est encore un peu plus développé, il y a déjà des choses qui ont été mises en place comme des tarifs d'entrée de parc qui sont beaucoup moins chers pour les populations locales que pour les voyageurs et les touristes par exemple. C'est le cas au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud également. puis aussi ben, dans tous les endroits où on peut voir les animaux, c'est vrai qu'on se rend très très vite compte que beaucoup de, par exemple au Kenya, moi ça m'a frappé, énormément de Kenyans n'ont jamais vu un éléphant, n'ont jamais vu un zèbre, n'ont jamais vu un lion. Donc il y a aussi des initiatives qui sont mises en place ben, pour les enfants, directement dans les écoles, pour les emmener. Alors de plus en plus, on voit voilà, des petits camions à l'intérieur des parcs avec les enfants pour leur permettre de découvrir la beauté, la richesse de leur pays. Mais voilà, tout ça, c'est des initiatives à mettre en place, effectivement. Et c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment une sensibilisation locale aussi, le fait de leur faire comprendre que tout ce qu'ils ont dans leur pays, c'est incroyablement précieux et rare, en fait.
Oui, ça fait rêver beaucoup de touristes à l'étranger. Vous avez accompagné de belles initiatives au Sénégal qui méritent d'être mises en avant parce que ça peut donner des idées à d'autres.
Oui, j'ai travaillé pour une ONG à la création de nouveaux itinéraires, de nouveaux endroits pour créer justement des circuits écotouristiques. Et c'est vrai que le Sénégal a longtemps eu la réputation d'être une destination de masse, qui a été déserté pendant des années et a dû bien évidemment changer un petit peu son fusil d'épaule et puis s'adapter à la demande des 10 et 15 dernières années qui est beaucoup plus justement vers l'écotourisme, vers des structures écologiques, etc., qu'ils ont énormément développé en très peu de temps. Et donc par exemple, mais quand on peut faire des circuits comme j'ai créé avec des approches à cheval ou en bateau dans le Siné Saloum, dans les dunes de l'Ampoule ou alors aux alentours des parcs de Saint-Louis, que ce soit le parc du Djoudj ou la langue de Barbarie. Voilà, maintenant c'est des endroits où on peut vraiment faire tout un circuit en résidant dans des toutes petites structures, dans des maisons d'hôtes ou des écologes. C'est vraiment un pays à redécouvrir totalement pour moi et qui a un côté naturel et nature qui est quand même très, 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 très présent.
Alors, quand j'étais au Costa Rica, j'ai souvent pensé aux forêts d'Afrique centrale parce que, bon, voilà, les forêts du bassin du Congo sont des forêts tropicales et c'est vrai que ça fait un petit peu penser les unes aux autres. Et je me disais, tiens, c'est quand même incroyable de voir à quel point au Costa Rica, même si c'est tout petit, ils ont su développer ce potentiel, alors que en Afrique, on a l'impression que, je pense au Cameroun, au Gabon, pour aller voyager dans ces pays, faut mettre beaucoup d'argent parce qu'il y a très peu d'infrastructures et donc c'est vite très cher, alors que le potentiel est énorme et que quand on entend des Esther, des Suzanne, des Carlos, on se dit ils pourraient être au Gabon, au Cameroun.
C'est vrai que la barrière avec l'Afrique est encore différente. D'abord, en effet, l'aérien est beaucoup plus cher. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des destinations qui vont être plus compétitives, quand on voit aussi le prix de certains visas au Cameroun, le touriste va vite faire son choix. Donc, il y a déjà une difficulté au niveau du prix, donc d'accessibilité de l'Afrique. Après, il manque encore en Afrique. Alors, il y a de belles initiatives qui se développe, en effet, de la même manière. Il y a des villageois qui peuvent faire émerger quelques initiatives de tourisme communautaire. Mais si derrière, les États ne prennent pas le sujet à bras-le-corps, c'est voué à l'échec. Les États doivent aussi être prêts à investir massivement dans la conservation de la nature, comme l'a fait le Costa Rica, en créant des zones protégées, en développant des stratégies et des programmes qui vont soutenir l'écotourisme. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais en effet, il y a énormément à gagner là-dessus et il y a un énorme potentiel sur le tourisme durable en Afrique.
Adeline Lobès, il y a aussi l'enjeu des infrastructures, hein. Il faut des routes, alors plus ou moins goudronnées, hein. On l'a vu au Costa Rica, les habitants qui ont créé des petits écologes n'ont pas forcément envie que leurs routes soient goudronnées, mais bon, il y a quand même des routes.
Oui, tout à fait. Il faut des routes et puis il faut des endroits pour accueillir le tourisme international. Et c'est-à-dire que même si on a de plus en plus de voyageurs qui se disent prêts à dormir dans des endroits simples et un petit peu basiques, il faut quand même un minimum pour accueillir une clientèle internationale. Et à l'heure actuelle, dans beaucoup de parcs nationaux et d'endroits magnifiques à voir en Afrique, principalement centrale, mais aussi de l'Ouest, il n'y a pas ces infrastructures. Oui, tout à fait.
Et donc, du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un entrepreneur qui aimerait se lancer ou même à des États qui souhaiteraient davantage développer ce type de tourisme, Adeline Lobès ?
C'est exactement ce que disait Clémentine, c'est que s'il n'y a pas une volonté très très forte de la part du gouvernement à la base, c'est vraiment compliqué parce que les populations locales effectivement développent des petites initiatives et elles sont vraiment désireuses de faire bouger les choses. Moi par contre, je suis allée en Afrique, il y a vraiment cette volonté avec rien de vouloir essayer de créer quelque chose, mais il y a un manque de soutien qui est incroyable de la part du gouvernement et sans ça, ils ne peuvent rien faire.
Je crois que ce qui est important là-dessus, c'est vraiment d'être dans la co-construction. Il faut que en Afrique, on mette en place des partenariats entre les communautés locales, comme ça a été fait au Costa Rica, avec le gouvernement et aussi avec les acteurs du secteur privé. De toujours co-construire ça avec la population.
Et pour les touristes, comment s'y retrouver? Si on entend cette émission, on se dit « mais moi aussi, j'aimerais bien, du coup, être un touriste vertueux, faire du tourisme communautaire, de l'agrotourisme. » On s'adresse où? Bon, il y a de plus en plus d'offres, hein.
Il y a de plus en plus d'offres. Qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle en tant que touriste? On commence par se renseigner en amont sur le pays où on va, sur ses coutumes, pour être toujours dans le respect. Et c'est par exemple un sujet qui peut poser problème dans un pays comme le Japon, qui est un pays extrêmement codifié, avec une culture très difficile. Une deuxième chose, si on part avec une agence, c'est bien choisir son agence. Aujourd'hui, il y a des labels qui existent, Agir pour un tourisme responsable. Il y a également l'Association pour le tourisme équitable et solidaire. Ces deux labels-là regroupent principalement les agences les plus engagées. C'est une fois sur place, si on part aussi en individuel, c'est bien choisir ses activités et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Alors, je vais prendre plutôt des exemples qu'on a eu la chance de pouvoir faire, replanter des coraux à Bali, un cours de cuisine chez l'habitant ou bien visiter des réserves naturelles en VTT. Donc c'est réfléchir aussi à l'impact de ses activités et à l'impact de ses choix. C'est aussi réfléchir à son transport et accentuer au maximum la mobilité douce et les transports en commun, le train. Dans plein de pays, le train, ça fait aussi partie de l'aventure et du voyage. Et puis réduire, bien sûr, au maximum son empreinte carbone. Ça, c'est important. Et puis, ce qui reste et ce que l'on ne peut pas réduire, eh bien, on le compense. On fait de la compensation carbone en replantant des arbres.
Alors, ça, c'est un peu soumis parfois à des discussions, mais c'est vrai qu'on peut se renseigner, en tout cas, et essayer d'aller vers le programme le plus vertueux possible.
La compensation seule ne suffira pas si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion sur la diminution de son empreinte carbone, bien sûr. Après, ça passe tout simplement par, finalement, je dirais peut-être du bon sens, prendre sa gourde. Aujourd'hui, il y a plein d'applications qui existent et qui se développent pour indiquer au touriste où est-ce qu'il peut remplir sa gourde d'eau potable. Ça peut être prendre aussi, si on va faire du tourisme balnéaire, prendre une crème solaire qui ne va pas polluer les océans ou prendre aussi son lycra. C'est s'adapter à la nourriture locale, manger végétarien si dans le pays on ne consomme pas de viande. C'est voyager aussi léger pour pouvoir ramener des souvenirs de l'artisanat local. Ça, c'est important. Et puis, quelque chose dont on ne parle pas aussi, mais qui est important, je trouve, dans le tourisme responsable, c'est les photos. Il y a plein de beaux pays. Aujourd'hui, on prend sans arrêt plein de photos. Et encore plus avec Instagram et le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout simplement respectueux de demander en amont à une personne si on peut la prendre en photo. Et du coup, ça permet aussi d'engager un premier échange.
Adeline Lobès, rapidement, quels seraient vos conseils ?
Oui, si je peux effectivement rebondir là-dessus, c'est effectivement pour moi, je trouve, le plus important, c'est de bien choisir ses activités. Et notamment quand on parle de tourisme, de safari avec les animaux, bah, vouloir nager avec les dauphins, aller caresser les lionceaux, etc. Il faut bien prendre conscience avant de vouloir faire ce genre de choses, de savoir exactement ce que ça engage et qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'évidemment, chaque pratique n'est pas faite dans le bien-être et dans le respect des animaux et de la nature. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial. Et moi, quand j'organise un voyage, il y a vraiment des activités que je refuse de vendre et j'explique très clairement pourquoi je refuse de les vendre.
Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et l'enregistrement des reportages. À Léa Morillon pour l'organisation des reportages et les traductions. Et à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.